bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Bonjour et bienvenue dans la bande originale. Cette semaine, nous réécoutons une sélection de nos meilleures émissions en compagnie de la bande évidemment au grand complet. Et ce matin, l'écrivain Philippe Besson et son nouveau héros, un certain Paul Darigrand. Tout va bien, Philippe ?
Tout va très bien.
Merci de venir nous parler de ce Paul Darigrand. On va parler donc de ce roman. C'est votre combienième d'ailleurs ?
19e.
Oh là là là.
19e.
Comme mon âge.
Est-ce que c'est votre 19e liaison amoureuse ? Parce que j'ai l'impression que dans chaque roman, il y a une nouvelle liaison.
Alors, non, c'est pas ma 19e liaison amoureuse.
Il y en a beaucoup plus.
Il y en a plus.
Je suis un garçon extrêmement sage. Non, non, non. Mais certaines de ces liaisons apparaissaient en filigrane dans d'autres romans. Et là, elle se racontait directement, exactement, sans phare et sans filtre.
Oui. Exactement. Une histoire d'amour passionnelle. Vous aviez une vingtaine d'années. Histoire d'amour qui a des contraintes. Première contrainte, d'abord, vous êtes l'amant qui vient mettre un peu la zone dans un couple établi, existant et installé, même à une vingtaine d'années. Arrive aussi une maladie qui vient chambouler tout ça. On va en parler dans quelques instants avec vous. Mais en tout cas, il est extrêmement agréable à lire ce roman. D'autant plus agréable qu'il nous replonge dans une période de l'année 88. Il nous replonge aussi bien musicalement qu'historiquement avec les faits divers, ouais, avec les films aussi.
C'est la bande originale de l'année 88.
Exactement, ouais. Et c'est vraiment extrêmement agréable à lire. On en parle dans quelques instants, mais d'abord, est-ce que vous connaissez bien,
oui,
Monsieur Philippe Besson?
Oh bah par cœur.
Prouve-le. De quoi a besoin Philippe Besson pour commencer l'écriture d'un livre?
La géographie, un lieu.
Exactement.
Passant Lisbonne, tout ça. Ouais.
J'ai besoin de savoir où ça se passe, l'histoire. Je peux pas écrire un livre comme ça, en suspension. J'ai besoin que ce soit ancré dans un territoire, une géographie, et souvent une géographie intime. Là, avec Paul Darigrand, c'est Bordeaux, puisque j'ai été étudiant à Bordeaux et que je me souviens très bien de cette époque-là. Et puis c'est aussi un peu l'île de Ré qui apparaît aussi, ouais, en filigrane dans beaucoup
de mes... Un petit peu Rouen qui en prend pour son grade.
À Rouen, c'est un peu le New York.
Oui, et du coup,
Non, non, mais c'est parce que Houellebecq a canard des New York. Et moi, on me dit que j'étais méchant avec Rouen. Non, mais en fait,
avec Rouen, mais
non,
j'imagine que si
réaliste.
Vous êtes dur avec Rouen, c'est par rapport à vos histoires,
non, voilà,
à votre situation.
Merci.
Donc j'imagine que Houellebecq a été très triste.
Il disait Rouen,
et merci, ouais, infiniment.
Et je pense que Houellebecq a été très triste à New York. Il a pris un râteau.
Mais tout le monde est
triste
à New York.
Mais
bien sûr,
non,
même,
en fait,
même les Yorkais sont tristes à New York.
Il est là. Il est là, c'est qu'effectivement, vous vous souvenez de cette période de votre vie, vous dites, c'est vrai que j'ai pas été très heureux à ce moment-là, et donc du coup, la ville où vous vous trouviez,
évidemment, le cadre,
en prend son grade,
évidemment,
absolument.
Évidemment.
Mais j'embrasse les Rouennais, bien
est-ce
sûr, les Rouennaises.
Est-ce que, bah oui, s'ils achètent le livre surtout, est-ce que le...
Vous attendent.
Avec des fusils.
Est-ce que le lieu, presque la météo, j'ai envie de dire, ou la saison, joue aussi, va de son influence. On pense à l'île de Ré. Ouais. Là, on est plutôt, c'est plutôt l'hiver,
ouais,
on est à la veille de Noël, et vous avez même survendu l'île de Ré à vos potes et vous arrivez dans une maison où ça n'accroche pas tant que ça.
Mais oui, parce que moi, je connais extrêmement bien l'île de Ré. J'y ai passé une grande partie de mon enfance et mon adolescence, parce que Charentais,
ben oui,
le littoral le plus proche, c'était effectivement l'île de Ré. Donc moi, j'allais même dans l'île de Ré en prenant le bac. Mes premiers souvenirs, c'était effectivement de prendre le bac de l'île de Ré,
vous
qui allait de la Palisse à Sablanceau.
Vous dites même que l'attente, le désir, ah oui, était important.
Absolument.
Aussi.
On attendait des heures. Hein, on faisait la queue comme ça parce que on n'était pas 17. 17, c'est la Charente-Maritime. Donc on devait attendre. On n'était pas prioritaire.
Ah oui,
et voilà.
Charentais, inférieure et supérieure.
Absolument. Et donc, mais même cette attente était jubilatoire parce qu'on savait qu'on allait avoir cette délivrance et ce bonheur de retrouver l'île de Ré. Voilà.
Comme quand on déballe un cadeau.
Absolument. Et donc, j'étais très heureux de ça. Et donc, je leur explique à mes potes que ça va être formidable. Sauf qu'ils arrivent, il y a un crachin épouvantable. On est juste avant Noël. Donc, ils disent, tu nous as un peu survendu le truc. Oui. Voilà. Mais ça allait bien avec l'âme romantique et torturée,
bien
qui
sûr,
était la mienne à ce moment-là aussi.
C'est comme les gens qui sont excités à l'idée de faire une émission sur France Inter et j'arrive ici. C'est le crachin de France Inter, c'est là.
C'est toi.
Voilà.
Philippe Besson n'en fait pas. Il s'agit de quoi?
N'en fait
du
pas.
Du vélo.
Des caisses.
Du ski.
Non.
Du sport.
Ah bah voilà, exactement. Ouais, t'as bien résumé. Parce qu'il y avait vélo, il y avait ski, il y avait tout ça, mais je voulais entendre sport. Vous n'aimez pas l'activité physique pour l'activité physique.
Non, j'ai toujours été nul en sport. J'étais calamiteux, mais vraiment calamiteux. C'est dramatique. Genre, le lancer de poids au bac, il est tombé sur mon pied, hein, le poids. Donc,
ça peut toujours faire rire.
On sent que, oui, mais... ça fait rire d'ailleurs les gens, moins quand j'ai reçu ma note. Mais donc en tout cas, non, j'ai une incapacité absolue à faire une activité physique. Mais je marche.
Comme vous aimez, ce qui est déjà une activité physique, comme vous aimez les corps musclés, les corps de surfeur, les abdominaux et les fesses rebondies, il y a bien un moment où vous pouvez aussi vous dire, et si je proposais un tel spectacle aussi ?
Non, en fait j'ai compris que ça servait à rien, qu'il fallait pas rentrer dans la compétition parce que je perdrais.
C'est pas une compète.
Ah, chacun son truc.
Et chercher à être gaulé quand même, c'est quand même essentiel.
J'ai admis d'emblée que ça serait comme ça. Non mais au fond, ça signe assez bien mes relations aux gens. C'est-à-dire que je me suis toujours vu comme quelqu'un, voilà, qui a pas de charme, qu'on regarde pas particulièrement, qui est sans aspérité, qui est ni beau ni moche, mais etc.
Plus pour bosser. Non.
Et du coup, avec Paul Darigrand, ce que je lui dis à un moment, je lui dis mais pourquoi m'avoir choisi moi ? Parce que franchement. Et il me répond un truc qui au départ me surprend. Il me dit l'intelligence. Alors je me dis franchement, être choisi pour son intelligence, on préférerait effectivement être choisi pour ses abdos. Bon.
Pourquoi vous opposez l'un à l'autre ?
Bah, je sais pas,
regardez Nagui, il a tout.
Parce qu'on a envie de plaire. Parce qu'on a envie
les
de plaire.
Abdos, l'intelligence.
Parce qu'on a envie de plaire. Et puis parce qu'à 20 ans, on est dans la sensualité, dans le jeu des corps et tout ça. Et puis finalement, il finit par me dire cette phrase qui m'est restée. Il me dit finalement, c'est assez bandant l'intelligence. Et je crois que c'est vrai.
Ça, on est totalement d'accord. Mais je ne vois pas pourquoi opposer l'un à l'autre. Et puis même, il y avait déjà un gymnase aussi dans votre précédent roman.
Absolument. On ne faisait pas du sport dans le gymnase, si vous vous souvenez bien.
Non.
Mais.
Bon, il n'aime pas le sport,
Non, je ne sais pas. Désolé, j'aimerais vous dire oui, mais non.
Et même à regarder, vous n'aimez pas non plus.
Ah si, j'adore ça. Je trouve que, pour le coup, ça, c'est
un spectacle.
Ah oui, c'est vraiment
une dramaturgie du sport.
Oui, et puis il y a de la beauté, il y a de la grâce, il y a de la puissance, il y a de l'énergie, Ah non, je suis un grand spectateur de ça.
Qu'est-ce qui dérange le plus Philippe Besson quand il écrit ?
Le bruit ?
Non.
L'obscurité ?
La présence de quelqu'un ?
Pas loin.
Son chat.
Exactement. Léo.
Léo, oui. Dites-nous, vous êtes bien renseigné.
Il vous dérange ? Il m'a appelé, il m'a dit...
Il a déjà marché sur le clavier.
L'embrasse, mon petit Léo. Il marche sur le clavier, bien sûr.
Pourquoi vous le faites pas
euthanasier ? Oh ! C'est le premier mot, Léo, je t'embrasse.
Mais s'il dérange ?
Non.
J'embrasse le chat quand même.
J'embrasse
pas mal.
Mon chat, bien sûr. C'est un Maine Coon.
Il écoute.
Il est assez
grand. Il est touffu.
Il est crème, énorme. Oui, il fait 9 kilos. Et encore, moi, c'est un petit Maine Coon.
C'est un puma, 9 kilos.
Ah ouais. Au prix du mètre carré à Paris, il prend de la place. Quoi.
Vous avez les moyens.
Et alors, pardon, est-ce que le chat est pour vous l'animal par excellence, justement, qui va avec l'auteur, l'écrivain, l'intelligence ?
J'ai pas du tout pensé à ça au départ. On le dit, évidemment, la tradition des chats et des écrivains. Ouais. Non, c'est pas du tout pour ça que j'ai.
Et des célibataires.
J'ai pris un chat à un moment.
Dès qu'une fille vous dit j'ai un chat, vous pouvez être sûr qu'elle est célibataire derrière.
Ah oui, c'est ça.
Ouais.
Ah oui.
Bah généralement, oui, les filles célibataires ont un chat.
Bon d'accord, très bien.
Et
donc moi j'ai pris un chat et je suis devenu le plus heureux des hommes. Ça m'a apaisé, c'est bizarre ce que je suis en train de dire, c'est effrayant.
C'est votre premier chat ?
Alors j'ai eu des chats quand j'étais enfant et adolescent.
Ceux-là vous les avez euthanasiés ?
Ils sont morts de leur belle mort, Daniel, c'est pas possible.
On peut filer un coup de main.
Monstre.
Mais là c'était le vôtre,
c'est le mien et je suis, il m'apaise,
il marche sur le clavier quand vous écrivez.
Il marche sur le clavier quand j'écris et il se couche devant moi, devant moi sur le bureau. Et donc j'écris avec lui et de temps en temps quand il trouve que c'est un peu long, il vient sur le clavier pour me dire d'arrêter d'écrire. Voilà.
Et vous faites du lancer de poids donc. Voilà.
Ça. Pourquoi Philippe Besson n'a pas été publié chez Albin Michel ?
Parce qu'il y avait un homonyme, Besson. On lui a demandé de changer de nom.
Patrick. Ouais. À cause de Patrick Besson, parce qu'effectivement, on m'a demandé de changer de nom.
Qui est ce Patrick Besson ?
Un journaliste écrivain.
Non, ça saurait.
Mais on s'est presque réconciliés, lui et moi. N'exagérons pas, il faudra moins de 20 minutes avant qu'il écrive à nouveau une horreur sur moi. Mais ceci étant, à l'époque, on m'a dit, il y en a un dans la maison, donc c'est pas possible. Et je me suis dit, je peux pas changer de nom, parce que c'est le nom que je tiens de mon père. Donc j'allais pas arriver comme ça avec un autre nom que celui que m'avait donné
mon père. Évidemment, puis maintenant, vous êtes le meilleur auteur.
Si vous le dites. Vous
Besson, je le dis, je confirme. Philippe en a toujours sur lui, Philippe Besson a toujours sur lui.
De la coke.
J'étais sûr.
Ça, l'aspirine.
Des croquettes.
Des
préservatifs. De la weed, mais des huiles essentielles. Des timbres.
Exactement.
Absolument.
Ah oui, les lettres.
Des timbres. Parce que je continue à écrire des lettres.
Mais vous êtes le seul au monde.
Je suis le seul au monde.
Non, c'est pas vrai. Moi, j'écris des lettres encore.
Ah, merci.
Ouais. Et puis surtout, on peut écrire des lettres et pas forcément avoir un timbre.
Si.
À la poste.
Bah
non,
justement.
Tu peux.
Ah oui, non. Bah non, parce que je les écris chez moi, je poste en bas dans la petite. Et donc, j'ai toujours ça sur moi. Parce que je continue à écrire des lettres assez. J'aime bien l'idée du geste, j'aime bien l'idée du papier, j'aime bien l'idée du temps qu'on met à écrire et j'aime bien l'idée du temps qu'on met à recevoir la lettre. En fait, on est dans une époque de l'instantanéité. Ouais, ouais. Aujourd'hui, vous écrivez un mail, il est reçu tout de suite et même vous vous affolez. Vous envoyez un texto pour dire « t'as bien reçu mon mail ». Donc ouais. C'est atroce. Enfin, je veux dire, bon.
Ce qui est atroce, c'est que le mail ou le texto a valeur de lettre recommandée, oui, accusée de réception.
C'est ça. Ça prouve qu'on voilà. a envoyé. Voilà. Et moi, j'aime bien l'idée que ça va prendre du temps et qu'on n'est même pas sûr que ce soit arrivé. Et donc ça, cette attente et cette incertitude, ça me plaît infiniment.
Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'envoyer une lettre en demandant si on avait bien reçu votre texto?
Je
devrais y penser. Ouais.
Est-ce que l'idée du parfum de la lettre et de la calligraphie accompagne aussi?
Alors non, pas le parfum.
Le choix du papier.
Mais comment? La qualité du papier, ouais.
C'est une contre-pétrie? Non.
Le choix du papier, le grammage. Parfois la couleur du papier.
Non, mais la calligraphie, oui.
Oui, absolument.
Parce qu'on peut déceler une nervosité, une détente,
oui.
Une lettre anonyme.
Ouais, vous écrivez toujours des lettres anonymes, Albert.
Vous tombez dans les journaux, dans Je suis partout, vous découvrez tout ça.
Le fameux Je suis partout, quelle horreur. Quelle horreur. Quelle référence
au
monstre. Quelle référence monstrueuse. Oui, mais il fallait préciser. Parce que sinon, en reprise, ça peut devenir quelque chose de monstrueux.
Atroce.
Une destination préférée.
L'Italie.
Oh, j'ai même pas le temps. Ok, d'accord. Ça, c'est fait.
Comme quoi, tout ça est pipé.
Mais non, pas du tout. Mais c'est.
J'ai déjà reçu des textos avec. Est-ce que Leïla a les réponses?
Ah, c'est
avant,
vrai. Non, mais parce que on a quand même reçu Philippe pour un certain nombre de ses ouais. romans. Donc, du coup, à force.
Une fois tous les six mois.
Je vous connais. Chaque année.
C'est pas de notre faute. C'est lui qui écrit. Ouais. Vite, hein.
Donc chaque année, je commence à voir un petit peu le personnage.
L'Italie, oui.
L'Italie auquel vous trouvez quelle qualité?
Alors en fait, oui, c'est vrai que c'est difficile de lui trouver des qualités en ce moment parce que son gouvernement ne nous aide pas à lui en trouver et ne nous aime pas beaucoup, j'ai cru comprendre, ouais. nous les Français. Mais pour autant...
Nous sommes extrêmement proches.
Nous sommes extrêmement latins, proches, c'est ça. Nous sommes latins, nous partageons la même culture, le même goût à plein d'égards. Voilà, j'aime l'Italie, j'aime la Toscane, j'aime la Sicile, j'aime les paysages, j'aime la folie aussi, j'aime l'exubérance, j'aime la mauvaise foi, j'aime voilà, même la brutalité.
Est-ce que vous aimez
les voix
dans les cours intérieures,
oui,
d'immeubles
bien
qui
sûr. Le linge aux fenêtres, les gens qui crient pour se parler alors qu'ils se parlent d'une fenêtre à une autre et qu'ils se parlent normalement, ils s'entendaient très bien. Ouais. J'adore cette espèce de truc qui continue d'exister. J'adore les mecs gominés sur les scooters qui regardent le cul des filles, ce qu'on a
élégant,
le droit de faire,
toujours
etc.
Très élégant.
Je trouve ça. Ouais. Ça dit quelque chose encore.
Quel
voilà.
que soit leur niveau dans la société et leur capacité financière, il y a toujours une élégance chez l'Italienne ou chez l'Italien, ouais. parce que même pour aller acheter la baguette ouais. ou n'importe
Absolument.
Quoi.
Berlusconi,
c'est la classe. Non, mais c'est la.
Non, ils font attention à leur apparence,
ils portent
etc.
Bien.
Et puis j'aime bien aussi chez les hommes italiens ce côté un peu virilité qu'on nous montre et qui rentre quand même quand la maman appelle, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un côté j'obéis quand même. Donc la virilité.
Est-ce qu'on y rajoute à cela la nourriture, la cuisine à l'huile d'olive,
on fait ce qui va avec. Non, mais oui, bien sûr, la pasta et tout ça, on mange très 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 bien.
D'accord.
Sans trop grossir d'ailleurs, je trouve.
Ouais. Non, parce que les pâtes ne font pas grossir, voilà, contrairement ça. À ce qu'on pense. Voilà. C'est ce qu'on y rajoute autour.
Parlons. Passer un kilo quand même.
Parlons. Non.
Non.
Bah non. Bien sûr. Tu peux manger autant de pâtes que tu veux et tu peux même le digérer beaucoup plus vite que la viande que tu manges. La viande faisant de à peu près 3 jours dans ton corps, alors que les pâtes, tu vas les digérer en quelques heures. Si elles sont al dente, il faut qu'elles soient al dente. On peut maintenant parler. Oui, la viande faisant, mon cher.
Dans moi.
Le roman.
Chez Julliard, donc, ce certain Paul Darry Grand, avec. Vous le dites d'ailleurs, vous aimez revenir sur ce que vous appelez des épisodes occultés. En déménageant, en fouillant dans des cartons, en retrouvant des photos, vous retombez. Ce qu'on ne fait plus, là aussi, on parlait de modernité avec les téléphones. Où on a toutes nos photos maintenant numérisées que l'on ne regarde plus. Là, l'histoire de la vieille photo jaunie et cornée dans la boîte à chaussures.
Absolument. Mais oui, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, je déménage et donc je tombe sur cette boîte à chaussures qui est en haut d'une armoire qu'évidemment, je ne suis pas allé voir depuis une éternité. Et parce qu'effectivement, aujourd'hui, on ne prend plus de photos. Enfin, on en prend en l'occurrence avec son téléphone portable. Donc, il n'y a plus le document photo rangé dans cette boîte à chaussures. Et je vois les deux garçons sur cette photo ancienne qui date de la fin des années 80. Je reconnais immédiatement, évidemment, les deux garçons. J'avais oublié que cette photo existait, presque qu'elle avait été prise. Et en même
Donc
temps,
voilà,
à ce moment-là, tout me revient. C'est ça qui est assez fascinant. C'est que la photo vous redonne la mémoire. Elle vous fait vous souvenir avec une exactitude confondante de ce moment-là, de cette circonstance-là, de la lumière qu'il y avait, du temps qu'il faisait, de comment vous êtes-vous. Et je vois... voilà, Paul, ce jeune homme flamboyant avec un charme fou, puis moi à côté, plus petit, avec mes lunettes en buée, et je me dis, bon,
c'est un peu étrange. Et de là, naît tout un raisonnement de se dire, pourquoi sont-ils à telle distance l'un de l'autre? Ouais. Qui est gêné? Est-ce que c'était avant ou après que nous nous aimions? Est-ce que c'était le matin, l'après-midi, le soir? Est-ce qu'on... Enfin, y a tout... Et qui a pris la photo?
Absolument.
Et comment l'avons-nous choisi? C'est-à-dire que d'un coup...
Il y a une enquête autour de la photo pour essayer de comprendre...
Sur comment, un instant, un regard, mais moi, qu'est-ce qui se cache?
J'adore ça. J'adore l'idée.
Et d'ailleurs, pardon, vous employez le terme de occulter, ce qui sous-entend aussi que quelque chose a été volontairement caché ou masqué.
Bah bien sûr, parce que de toute façon, en plus, cette relation dans laquelle je vais me lancer avec Paul Darrey-Grand va être une relation clandestine. C'est-à-dire que c'est une relation qui se joue à l'abri des regards, qui se joue dans l'ombre. Moi, je suis assigné à l'ombre, je suis assigné à la nuit. Ça ne doit pas se savoir. D'ailleurs, c'est une question terrible, parce que c'était déjà au cœur de Arrête avec tes mensonges. Il y a l'idée que on ne peut pas m'aimer au grand jour. Pour m'aimer, il faut que ça soit caché. Donc, ça veut dire quelque chose, sans doute. Bon.
Ou que vous choisissez aussi.
Ou que je choisis peut-être effectivement des amours de cette nature. Absolument. Et c'est vrai que la photo est la preuve tangible que quelque chose a existé. Donc, je peux dire ça a existé puisque c'est là, figé sur la photo, puisque nous avons sauvé quelque chose de ce temps où nous ne sommes plus, pour reprendre la phrase de d'Annie Ernaux. Mais en même temps, sur la photo, on ne peut rien savoir vraiment. C'est juste deux garçons. Après tout, ça pourrait être deux garçons qui se connaissent à peine.
Ça peut être deux copains.
Rien passé. Et donc, derrière cette apparente innocence, est-ce qu'il n'y a pas une forme de transgression, de culpabilité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue derrière l'image? Alors, j'adore cette phrase aussi de Prévert qui est quand je peins un nageur, je peins en l'occurrence un noyé, je vois déjà le noyé. Il y a ça. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière la photo en fait?
Vous employez aussi, vous remarquez que c'est étrange de se revoir jeune. Il y a une part de nostalgie, il y a un petit truc qui pique quand même les yeux de
c'est terrible.
De repartir.
Quand on arrive encore à voir.
Mais c'est dire comme ça 30 ans en arrière.
On est renvoyé à sa propre jeunesse, on est renvoyé à quelqu'un qu'on n'est plus.
Ouais.
On est renvoyé à quelqu'un qui a disparu. C'est-à-dire qu'on sait que ce jeune homme-là sur la photo, c'est nous. Bien sûr, c'est nous. Mais c'est plus nous du tout. C'est-à-dire ce jeune homme-là, il a existé et il a disparu. Et en même temps, c'est intéressant.
Vous allez loin, parce que vous dites la nostalgie fait plus de mal que de bien.
Oui, mais parce qu'en fait, vous vous dites, est-ce que je l'ai trahi, ce jeune homme-là, ou est-ce que j'ai tenu les engagements qu'il a pris à ce moment-là? Est-ce que si je le regardais aujourd'hui, je pourrais le regarder dans les yeux, ou est-ce que je serais un peu embarrassé, un peu gêné? Et puis en même temps, ce jeune homme, il est à l'orée de sa vie, il sait pas ce qu'il attend, il sait pas ce qui va arriver, donc il y a une forme d'innocence, d'insouciance, de légèreté, de désinvolture, et tout ça s'est perdu aujourd'hui. Il y a effectivement de la gravité, de la frustration, des désirs contrariés. Bon, et donc c'est intéressant de voir avec le recul des années. Et en même temps, ça vous fait prendre justement conscience de ce temps qui s'est écoulé, de ce qui ne sera plus.
Alors cette histoire, j'ai presque envie de dire, il y a deux temps dans le livre, deux périodes. La première période, vous êtes l'amant d'un couple, et donc celui qui doit se cacher, celui qui est dans l'illégalité, entre guillemets, et que ce soit les copains à la fac, que ce soit évidemment l'autre dans le couple, vous vous immiscez et vous culpabilisez presque d'aimer aussi celle qui constitue le couple avec Paul, parce que vous sentez coupable de foutre en l'air un peu leur histoire qui semble très belle comme ça sur le papier.
Oui, c'est-à-dire que je tombe amoureux instantanément de ce Paul Darrey-Grand parce qu'il se plante devant moi en formulant un mensonge éhonté, magnifique, sublime, et en quelques secondes, je suis déjà épris.
Foutu.
Et foutu, franchement, foutu.
Ça sent.
À la première seconde, c'est déjà fini dès le départ, et je découvre peu de temps après qu'il est marié, ce qui est évidemment un petit obstacle quand vous essayez de tomber amoureux de quelqu'un, c'est toujours embêtant. Bon,
avec une femme.
Et marié à une femme, puisqu'à l'époque, on pouvait se marier qu'à des femmes. Donc l'idée, c'est de se dire comment cette histoire va être possible. Et après, je rencontre la femme en question et j'ai juste envie qu'elle soit atroce et elle est formidable. C'est-à-dire, tout d'un coup, c'est supposé être ma rivale et je tombe devant quelqu'un qui a toutes les qualités au monde.
Qui est pétillante, qui est
drôle, qui est spontanée, qui est énergique, qui a de la ferveur.
Qui est gentille avec vous.
Voilà, qui est adorable avec moi, qui est infirmière en psychiatrie, ça. Et donc, en plus, j'adore m'occuper de mes fous. Enfin, une femme qui dit ça, on a envie de l'aimer tout de suite. Donc, c'est compliqué, évidemment, d'aimer le mari de cette femme-là.
Et ça va, mon père Albert,
mais oui,
évidemment être un succès.
Je suis d'accord avec vous, ça va être un succès. C'est un très beau roman, cher Nangui. Et tout comme moi, les auditeurs de France Inter, coco les auditeurs, ils sont... Les auditeurs sont sensibles à la démarche des jeunes en recherche ou des anciens jeunes en recherche, comme le narrateur. Mais non, je dis la vérité. Comme le narrateur du roman de Philippe Besson, qui n'est autre que toi, Philippe Coco. Philippe.
Coco.
Des jeunes en recherche de reconnaissance et d'amour. Alors, ce qui passionnera les lecteurs de Un certain Paul Darigrin, c'est de découvrir que lorsque cette quête d'amour se gâte en une excitation des passions, en une concupiscence coupable, la volupté a immanquablement pour revers la souffrance et la douleur. Alors le corps, ce temple de l'esprit, comme disait saint Paul, le corps se met en une répugnante boule de vis complètement détraquée, boule qui roulera d'autant plus vite vers l'abîme de la perdition que telle une bagnole au frein qui lâche, ce corps, pardonnez-moi cette métaphore automobile, ce corps verra ses plaquettes irrémédiablement s'user avec épitaxie, thrombopénie, scintigraphie, bolus et splénectomie à la clé. À moins d'un miracle, à moins d'un renoncement à la débauche, à moins d'un exorcisme flash auquel, faute de temps, je ne pourrais pas procéder sur toi, Philippe. J'en suis désolé, tu t'en tires bien. Hein? Alors je m'emporte, Nangui. Néanmoins, j'ai aimé cet ouvrage élégiaque, car il me reporte à la période 88-89, dont il cite des événements musicaux majeurs qui ont marqué ma vie et celle de mes scouts, qui sont, comme le disait Daniel Morin tout à l'heure, la bande originale de cette époque, Bamboléo. Sign your name. Souvenez.
Je dis quoi après?
Sign your name de Terence Trent D'Arby. Vous l'avez pas ça?
Il est sourd.
Man in the Mirror de Michel Jackson.
Ah oui.
Man in the Mirror.
Bah oui, mais enfin, dit comme ça, comment tu veux reconnaître
ça? Ça, je l'ai entendu celui-là. Puisque tu pars de Jean-Jacques Goldman. Ah.
T'as envie de chialer, ça.
J'ai pas la force.
Il y a aussi pour toi Arménie de Charles Aznavour. Sans oublier ce clip où Madame Niagara Muriel, dans une tenue véritable défi à la décence, s'abandonne au feu diabolique de la danse en exaltant l'amour à la plage. Oh, cha-cha-cha. Baiser, coquillage, oh, oh, et sable dans l'arrêt, oh, ça fait mal.
Pardonnez-moi. Elle ne dit pas ça.
Ah, je pensais. Pardonnez-moi, je me suis encore emporté, Nangui. Tout comme vous, d'ailleurs, il faut bien le reconnaître, quand juste avant l'émission, vous avez demandé à GNB de vous faire voir la bande-annonce du dernier film de Besson, et qu'il vous a répondu, mais oh mon maître, il ne s'agit pas de Luc, mais de Philippe Besson, pas un cinéaste, un écrivain. Un écrivain? Mais tu sais bien que j'ai horreur de lire, surtout les romans. Bon, corne un peu le bouquin, glisse dedans 4 ou 5 post-it pour faire croire que je l'ai lu, lis-moi la 4e de couve et fais entrer le Besson. Voilà, cher Philippe Besson, comment
faire
se prépare
Besson, c'est très vulgaire,
la
ça.
Bande originale, mais c'est comme ça que vous m'avez dit. Comme se prépare la bande originale dans la falsification et l'escroquerie intellectuelle, le mépris de la littérature et la confusion des Bessons. Bonne émission quand même.
Merci.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Philippe Besson, d'ailleurs, vous avez dans cette faculté à écrire des romans à une rapidité. D'ailleurs, est-ce que ça s'écrit dans un instant comme ça, ou alors vous travaillez, vous revenez plusieurs fois sur ce que vous écrivez?
Non, il faut que ça soit fluide, il faut que ça soit facile, il faut que ça coule. C'est-à-dire qu'il y a un moment, j'ai l'idée du livre, ça s'impose, c'est comme une évidence. Je vois exactement ce que je vais écrire, je connais le déploiement, je connais même la fin, et donc je peux me lancer dans l'écriture. Et quand je me lance, il faut que j'y revienne chaque jour. Ça devient presque une dépendance à l'écriture, ça devient une obsession. Je ne pense qu'à ça. Ma vie sociale est mise entre parenthèses.
Et pourquoi cette mise en abîme dans le livre, par moment, je crois 2-3 fois, vous regardez l'auteur, vous regardez le romancier en disant « ça, je ne sais pas l'écrire, je ne sais pas le décrire, je n'ai pas ce don-là, ce talent-là ». Ceci étant, vous dites ne pas l'avoir, et tout de suite après, vous le décrivez quand même à votre manière. Et
oui, mais parce que de temps en temps, on est dans une frustration de ne pas trouver le mot juste, de ne pas savoir exactement dire les choses, raconter les choses telles qu'elles se sont réellement passées. Et par exemple, je dis ça notamment à propos d'un regard de Paul, à un moment, je me souviens de ce regard. Au moment où je vous parle, je vois ce regard, je sais comment il était. Et je ne sais pas l'écrire, je ne sais pas décrire précisément.
Y mettre des mots, ça serait le réduire dans un cadre.
Oui, mais on aimerait que... pouvoir mettre les mots sans que le cadre soit réduit, justement, ouais. et que chacun comprenne ce qui se passait, de la douleur et du désir mélangé dans ce regard-là.
C'est ce qui fait la beauté de la littérature, justement, oui. C'est que certains mots font penser, chacun va les interpréter à sa manière.
C'est, moi, ce sur quoi je compte, c'est ça, c'est qu'au fond, je crois au pouvoir d'évocation des mots, et je crois que dès qu'on raconte une histoire intime, elle peut avoir une chance d'être universelle, parce qu'elle renvoie les gens à leur propre intimité, à ce qu'ils ont connu, et certes, le lecteur ne verra pas le regard de Paul à ce moment-là, mais il verra un regard qu'un jour on lui a renvoyé et dans lequel il a reconnu du désir et de la douleur mélangés.
Enfin, un peu plus de précision ne vous ferait pas de tort.
Daniel, je compte sur vous.
Et la figure de l'auteur, elle est aussi convoquée puisque vous faites référence à des livres que vous avez écrits précédemment, notamment l'un d'entre eux où vous reconnaissez que finalement, vous reconnaissez en même temps, c'est pas
sur,
un crime.
Sur
puisque,
son frère, tu veux dire?
Oui, parce que ouais. Ces romans, c'est comme ça que sont estampillés vos livres, ce sont des romans, en tout cas. Vous nous permettez d'avoir accès à d'autres éléments, quitte à relire finalement ce premier livre.
Quitte à dire qu'il a menti.
Il a menti, hantément, oui, bien sûr.
Mentir, oui et non, parce que finalement, vous ne nous aviez pas promis la vérité.
Absolument, j'avais expliqué que c'était un roman.
C'est pas un mensonge.
Donc, c'est vrai qu'avec ce livre-là, j'essaie de montrer l'envers du décor. C'est-à-dire, je dis, pendant des années, j'ai écrit des romans, j'ai fait de la fiction, j'ai fait un travail d'imagination. Mais évidemment, dans ce travail d'imagination, j'empruntais à ma vie réelle, j'empruntais aux choses que j'ai connues, que j'ai traversées, aux sentiments que j'ai éprouvés. Et je dissimulais ça dans un ensemble. Et j'avançais masqué, d'une certaine manière. Et donc, dans Son frère, je raconte l'histoire d'un type qui tombe malade. Mais ce type-là qui tombe malade, ce n'est pas moi. Je dis que c'est mon frère et moi, je suis le bien portant. Parce que l'avantage
et
des romans,
et il meurt. Et vous tuez votre frère alors que vous précisez que tout va bien.
Tout va bien,
et vous l'embrassez, voilà, il est en pleine forme.
Il va très bien, je l'embrasse parce qu'il nous écoute. Donc ça veut dire que la fiction, elle vous venge du réel d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous donnez un rôle qui n'a pas été celui que vous avez eu dans la vraie vie. Dans Le Garçon d'Italie, par exemple, je raconte aussi l'histoire d'un trio amoureux, d'un homme pris entre un homme et une femme. Et je suis donc l'amant dans Le Garçon d'Italie.
Encore.
Et évidemment, Le Garçon d'Italie, je me suis donné le rôle d'un prostitué flamboyant, d'une sensualité magnifique à la gare de Florence. Parce que la fiction vous venge du réel. Ça n'est pas ce que je suis dans la vraie vie.
Mais est-ce que la fiction soigne?
Alors, je vais y venir. Pardon. Mais en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, j'arrive à un moment où je me sens enfin peut-être capable de dire la vérité, de montrer l'envers du décor et dire, je passe un contrat avec le lecteur de vous dire, voilà, je vous ai raconté une histoire, maintenant je vous raconte ce qu'est la vérité dans cette histoire-là.
C'est malin, ça fait deux fois plus d'histoires, finalement.
Ah. Non, et pire, et pourquoi maintenant vous croirez?
Oui.
Là, il faudrait que je sois particulièrement pervers pour que ça soit. Mais ça serait drôle.
Ça pourrait être une création.
Oui.
Mais je vous en sens capable.
Et quel est le déclic? Quel est le déclic? Qu'est-ce qui a fait que vous vous sentiez aujourd'hui capable de passer ce pacte avec le lecteur et de dire que c'est vous qui avez été malade?
Alors, en fait, je pense que tout tient avec ce qui s'est passé avec Arrête avec tes mensonges. Arrête avec tes mensonges était mes premiers pas dans l'autofiction, dans le récit de soi, dans le fait de raconter sa vérité intime, de dialoguer avec ses propres disparus. Et Arrête avec tes mensonges, c'est un livre que je n'ai pas décidé. C'est-à-dire qu'il s'est imposé à moi, on se souvient, parce que j'apprends une nouvelle et cette nouvelle déclenche l'écriture du livre. Et à partir du moment où j'ai écrit Arrête avec tes mensonges, j'ai eu le sentiment que quelque chose s'était ouvert, que des possibles s'étaient ouverts et que peut-être aujourd'hui, il était temps de dire un certain nombre de choses. Et puis, il y a cette phrase que je mets en exergue du livre, cette phrase d'Annie Ernaux, qui est « Sauver quelque chose du temps où l'on ne sera plus jamais ». Et à un moment dans notre vie, on arrive à un âge où tout d'un coup, on se dit « La jeunesse est définitivement perdue. Elle est très lointaine et si je veux en conserver une trace, il faudrait que je l'écrive, sinon tout ça sera perdu, fini, définitivement. Et donc je m'attache à raconter cette jeunesse-là pour que, comme la photo, elle demeure.
Ce qui est fort en tout cas, c'est que évidemment, on est observateur privilégié en lisant tout ce que vous racontez sur votre vie, mais également on se pose plein de questions sur sa propre jeunesse, sur ses propres amours,
oui.
Quelle que soit la forme qu'elle prenait, en tout cas, c'est ses amours, et aussi de se poser des questions sur sa place,
ouais,
sur la fragilité de la vie, ouais. Et sur la maladie dont on va parler tout à l'heure aussi avec Jean-Christophe Minot, qui est médecin, chercheur et philosophe, et justement comment vivre après avoir eu l'information de la part des médecins que l'on est condamné, comment ouais. Redémarrer la vie, ce qui était votre cas, et c'est la deuxième partie entre guillemets de ce roman, même si l'histoire d'amour ou cette liaison avec Paul Darry Grand se poursuit pendant cette convalescence. Mais d'abord voici l'humeur de Marina Rollman.
Les amis, aujourd'hui, je voulais vous parler d'amour parce que l'autre jour, j'étais à l'opéra et à un moment donné, j'ai entendu ça. « Alors on comprend pas bien parce qu'ils crient. T'as envie de leur dire dans les opéras, on comprend pas. Je veux dire, parle normalement, quoi. Déjà, elle parle pas allemand ou je sais pas quoi. Mais alors en gros, c'est Né Moreno dans Les Lisières d'amour de Donizetti qui dit d'Anina, si elle accepte de se marier avec le sergent, je mourrai de désespoir. Et je me suis dit, waouh. C'est vrai qu'aujourd'hui, on meurt plus beaucoup d'amour, en fait. C'est vrai, toi, t'es déjà mort d'amour. Ben non, nous, on est peu... moi, je suis pas mort d'amour, personne. Alors, c'est vrai qu'autant aujourd'hui, ceux qu'on boit, ceux qu'on mange.
Enfin,
qu'on
ceux
respire...
qui sont morts d'amour, ils sont plus là pour te le dire, déjà.
C'est vrai, mais j'ai. Oui, ben c'était un peu ça la blague aussi. Non, mais autant, c'est vrai que l'amour, beaucoup moins cause de mortalité qu'à certaines époques. Parce qu'à en croire l'histoire de l'art, c'était la méga épidémie pendant des siècles. L'amour, c'était la grippe porcine, quoi, partout, à gauche, à droite. Et alors, quand je dis l'amour, c'était pas faire l'amour, évidemment, parce que ça, aujourd'hui, ça nous tue. Mais non, là, ils se font encore plus carotte, c'est aimer de loin. C'est quand tu aimes quelqu'un et tu peux pas l'avoir et tu meurs. Alors moi, si tu n'es pas là, je me tue. Je ne le dis jamais dans la vie, à part en parlant de tiramisu peut-être, oui, ouais, tu vois. Ouais. Mais sinon,
ça vaut le coup.
Jamais d'une personne. Alors, c'est vrai qu'il faut dire que pendant longtemps, le monde c'était pas très tendre. Hein. Tu n'avais pas Instagram, tu pouvais pas envoyer des cœurs comme ça à brûle pour point à des inconnus avec un pouce. Et en vrai, c'est vrai qu'aujourd'hui, virtuellement, on se donne beaucoup d'amour. Si tu pouvais t'aimer à une époque que en direct, tu vois, ou à la limite par lettre, mais c'est pas très chaud une lettre. Et le reste du monde c'était extrêmement aride, tu vois. Il n'y avait pas de chauffage au sol, etc. C'était triste. Donc forcément, tu avais envie de prendre quelqu'un dans tes bras. Mais l'idée de dire c'est toi ou rien, aujourd'hui, c'est plus possible. Il y a trop d'autres choses, tu vois, entre Uber, Deliveroo, Tinder, c'est jamais toi ou rien. En vrai, quand ça se passe pas bien, au pire, tu finis un peu une main dans le slip devant Netflix à manger des pizzas. Mais c'est pas une question de vie ou de mort.
C'est pas facile d'une main manger une pizza, c'est
vrai,
d'une main, c'est pas facile.
C'est vrai, mais bon. Mais c'est vrai que j'en parle souvent. Le niveau de drague a baissé, tu le sens qu'il y a beaucoup moins d'enjeux. Aujourd'hui, il y a des gens comme premier message sur les réseaux sociaux qui t'envoient pour dire bonjour SLT.
Ouais.
Même pas salut, SLT. Tu sens, il va pas s'empaler pour toi sur la grille de ton château, lui. Déjà, t'as pas de château. Et puis, très clairement, si tu n'inspires pas assez des mois pour susciter des voyelles, il y a peu de chances que tu fasses cesser des existences. Bon, tout n'est pas à jeter dans l'amour moderne. Typiquement, Iseu, sans lui dire, elle donne un filtre d'amour à Tristan. Alors, bon, ça, aujourd'hui, on a arrêté parce que ça s'appelle du GHB. Socialement, c'est moins accepté, quand même. Ouais, non, mais c'est vrai. Oui, c'est ça. Secrètement, Iseu, c'était un peu le Bill Cosby de l'époque. Hein. On en fait des opéras, mais il n'était pas très consentant. Mais bon, c'est ça aussi.
Hashtag MeToo.
Mais oui, complètement, c'est ça. Bon, mais c'est vrai qu'il faut des enjeux pour en faire des œuvres. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas tenir 2 heures de ballet sur « Il m'a envoyé l'emoji singe qui se cache la bouche ». Comment l'interpréter, tu vois ? Tu peux pas chorégraphier un pas de deux mémorable sur le fait que vous vous êtes séparés. Et depuis, bon non, tu n'es pas décédé, mais c'est compliqué parce que vous faites une garde alternée pour votre shih tzu. Enfin, c'est pas très, tu vois, on sent que c'est pas... Alors c'est vrai qu'on meurt plus d'amour aussi parce qu'aujourd'hui, a priori, tu peux refaire ta vie. Hein, juste parce qu'elle dure plus longtemps, c'est vrai. On le sait, Juliette de...
Roméo
non,
et
pas Juliette, je t'aime, oui voilà, c'est, Roméo et Juliette. Selon les versions, elle a 13 ans. C'est chaud quand
Oula
même. Mais en vrai, si à 30 ans, tu as déjà la goutte, te flinguer entre 13 et 22 ans, c'est un peu comme faire exit, tu vois, c'est pas grave de mourir quand t'es déjà en fin de vie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'allongement de la vie, on a plein d'occasions de refaire sa vie. Évidemment, aujourd'hui, tu commences à dater, à avoir des petits copains, des petites copines vers quoi, 15 ans peut-être. Mais après, il y a 1000 étapes entre ça et la fin de ta vie amoureuse. Les premiers émois, les premières déceptions, le papillomavirus, la première relation sérieuse, l'herpès, les fiançailles, rompre les fiançailles, partir se ressourcer à Buenos Aires, là, coup de foudre, mariage express. 2 mois plus tard, divorce tout aussi express, liaison avec ton prof de tennis, soupçon de chlamydia, fausse alerte, botox pour fêter l'absence de chlamydia, ouais. Vrai mariage, gamin, divorce, remariage, regamin, veuvage, et enfin, le compagnon avec lequel tu finiras ta vie, à porter des visières en plastique vert, comme ça, sur la Côte d'Azur.
Oh non !
Ça touche des gens dans le public. À dire des trucs genre, ah non, nous, tu dis on, au bout d'un moment, tu sais, oh non, nous, on n'aime pas la télé. Enfin, il y en a un qu'on aime bien, c'est Nagui. Hein, François ? Quoi ? Ouais, on aime bien Nagui. Effectivement, ces villas, on n'en fait pas des opéras, mais c'est pas mal aussi, finalement.
Merci, Marina Rollman. France Inter, Nagui, la bande originale. Un jour, un ange est arrivé sur la forêt. Caliente. Vous êtes bien dans la bande originale. Ce matin, nous recevons Philippe Besson pour son livre Un certain Paul d'Harry Grant. Et cette douce ambiance est celle de Renan Luce. Ça s'appelle Au début. Et c'est donc sur Inter dans la bande originale.
Est-ce qu'on peut reprendre au début? Reboire le vin que l'on avait bu. Moi j'aimerais que l'on se rendorme dans un lit à mémoire de forme. et que l'on se réveille pareil. Est-ce qu'on peut reprendre mine de rien, comme à la page cornée du bouquin qu'on avait refermé la veille, en luttant contre le sommeil? Est-ce que jusqu'au mot fin on tient? Je sais bien l'existence suit le même unique sens que l'eau, mais referais-tu ce baiser offert autant que volé tantôt?
La musique est très présente, l'actualité aussi dans votre livre. De temps en temps, comme ça, il y a des informations comme l'affaire de l'attentat de Lockerbie, ou avec cet avion qui explose malheureusement en plein vol et qu'il y a des connexions faites avec Kadhafi.
Absolument.
Avec toute cette actualité. D'ailleurs, qui vous touchait plus ou moins en fonction de ce que vous étiez en train de vivre. C'est-à-dire que oui, on en parle dans les journaux, oui, ça passe à la télé, mais
on s'en fout.
On s'en fout parce que j'ai rendez-vous à 17h au café, parce que je vais le voir et parce que je l'aime.
En fait, c'est très étrange parce que quand on a 20 ans, c'est un peu l'éveil de notre conscience politique et c'est la compréhension qu'il y a un monde extérieur, qu'il y a un dehors et que on est poreux à ce dehors-là. Et donc, on écoute l'actualité, on regarde la télévision, on lit les journaux, donc on commence à comprendre qu'il se passe des trucs autour de nous. Donc, on entend parler de cet attentat à Lockerbie, on a bien vu le char sur la place Tiananmen et le jeune homme qui arrête le char. Tout ça, c'est des choses qui nous ont impressionnés.
Sauf que vous l'avez mis dans le mauvais sens.
Absolument,
si je peux me permettre. Oui. Vous parlez de la finale de Roland-Garros avec Lendl. Enfin non, c'était pas la finale.
Chang Lendl.
Voilà. Ouais. Et vous dites plus tard, il y aura Tiananmen.
Non, c'est pas l'inverse. Ça. Non. J'ai dit plus tard, j'ai vu l'image.
Oui, mais
voilà, j'ai vu l'image plus tard. J'ai pas vu l'image sur le moment, moi,
c'est
en fait. C'est ça. Non, je l'ai pas vu sur le moment.
D'accord.
Je l'ai vu après, en fait. Voilà.
Okay.
Et ce qui est frappant, c'est que donc ces événements-là, on les voit, on sait que ça arrive. Mais comme on est bêtement amoureux, comme on a 20 ans, on s'en fiche un peu. C'est-à-dire, ça roule sur nous comme de l'eau sur les ailes d'un canard. C'est-à-dire que on s'en fiche un peu. C'est-à-dire qu'on n'est pas rattrapé par la violence et par les soubresauts du monde. On sait qu'ils sont là, mais on y est un peu indifférent. Et pour autant, l'époque est violente, déjà.
Parmi toutes les musiques, en effet, vous évoquez... Eddie Grant ou Terence Rhett D'Arby.
Sublime.
Mais aussi...
Quelle misère.
C'est génial.
Mais non, alors disons un peu de respect pour eux déjà, les pauvres, écoute.
Trop tôt disparu, hein.
Mais on les salue, tout va bien pour eux. Et puis...
Ah voilà.
Sublime Jean-Jacques Goldman.
Sublime chanson et sublime Jean-Jacques Goldman,
Et comme par hasard, au moment où vous écrivez le roman, vous recevez une lettre de Jean-Jacques Goldman.
Ah ouais. Ça, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que, parce que j'évoquais Jean-Jacques Goldman dans Arrête avec tes mensonges, que j'étais absolument et intégralement fan de Goldman, et j'avais des posters dans ma chambre et tout. D'ailleurs, Thomas Andrieux, quand il arrive dans ma chambre la première fois et qu'il voit des posters de Goldman, lui, qui préfère téléphone, il a un moment un peu interdit. Bon, et j'assume ce goût-là. Et j'avais écrit à l'époque, évidemment, à Jean-Jacques Goldman avec l'espoir qu'il me réponde, et il m'a évidemment jamais répondu. Bon, il avait sans doute beaucoup mieux à faire. Et 30 ans plus tard, Goldman lit Arrête avec tes mensonges. Il voit qu'il est dedans, mais enfin, ça, c'est pas ça qui lui importait.
Ça doit pas être le premier livre, si je peux me permettre.
Oui, absolument. Et il m'envoie une lettre à ce moment-là, extrêmement belle, mais vraiment magnifique, ce qu'il a ressenti en lisant le livre, etc. Donc ça m'a, voilà. Lettre à laquelle j'ai répondu, il m'a réécrit après, enfin, c'était vraiment très touchant. Et donc j'étais évidemment émerveillé d'avoir cette correspondance avec lui, et en même temps je me disais, c'est 30 ans trop tard, c'est-à-dire si cette lettre était arrivée au jeune homme de 18 ans, ça aurait été une exaltation totale, un bonheur complet, et 30 ans après, je suis très heureux évidemment, mais la texture du bonheur a changé. Donc j'ai de la gratitude, de la reconnaissance, ça me fait plaisir, je suis très heureux, parce que mon admiration en plus pour lui est intacte.
Vous savez où a grandi Jean-Jacques Goldman
et... À Montrouge.
Voilà, où a été imprimé votre livre.
Très bien,
c'est vrai.
C'est fait exprès.
Écrit à la fin. Livre imprimé à Montrouge, je me suis dit, Simon, il y a du Goldman partout dans ce livre. Blague à part, on va écouter la musique que vous écoutiez aussi en 79. Manu Reva, Alain Chamfort en 79, il a à peine une dizaine d'années.
Oui, c'est ça, vous avez 12 ans,
12 ans.
Et c'est un déménagement que connaît la famille.
Oui, absolument, parce que j'ai grandi moi dans une école, dans le logement qui est au-dessus de l'école du village, à Lamérac, qui est un village de 160 habitants dans le sud de la Charente. et on déménage pour la grande ville, parce que je vais à Barbezieux, 4500 habitants, autant dire Los Angeles, enfin bon.
Mégalopole.
Et donc c'est, voilà, je déménage là et c'est un déchirement, parce que c'est le moment exact où l'enfance se termine. Mais vraiment, on est en pleurs, je me souviens avec mon frère, ma mère, bon. Et c'est un déchirement. Je me souviens que d'un chagrin immense de quitter ça, parce que je pense que j'ai la conscience de quitter le territoire de l'enfance.
Et parallèlement, vous découvrez aussi le cinéma, c'est-à-dire que c'est l'avantage de Barbezieux, c'est qu'il y a un cinéma
qui s'appelle Le Club.
Et que vous pouvez aller fréquenter plusieurs fois, je crois, au moins trois fois par semaine tout seul.
Absolument.
C'est devenu une sorte
absolument.
De rituel.
Parce que moi, on n'avait pas le droit de regarder la télé quand on était enfant avec mes parents, voilà. Donc, moi, j'ai pas vu la télé pendant jusqu'à l'âge de 12 ou 13 ans.
Ça ouvre à d'autres cultures.
Absolument. Ouais. Donc, je lisais des livres, je faisais autre chose, j'allais dans les champs, dans les vignobles. Bon. Et c'est vrai que là, tout d'un coup, dans cette ville où on déménage, Barbezieux, il y a un cinéma. Et donc, chaque semaine, il y a trois films qui sont diffusés. Et je vais voir les trois. Alors, j'ai vu des films qui ne méritaient pas forcément d'être vus. Mais j'avais besoin de ça.
Vous avez forgé votre expérience de spectateur.
Oui, et puis ça nourrit l'imagination. Et puis, c'est l'idée que tout d'un coup, il y a des gens sur une toile qui racontent une histoire et vous y croyez. Donc, c'est un truc de fou.
1999.
Je chante un baiser. Je chante un baiser osé. Sur mes lèvres déposées par une inconnue que j'ai croisée, je chante un baiser. Marchant dans
et
la
là, main. Philippe, on va prendre la date du 4 septembre 1999, le jour où
j'écris la première ligne du premier livre.
Vous devenez en
Jean,
quelque
vous
sorte
avez
écrivain.
Noté la date.
Ah mais je sais. Absolument, je me souviens du moment, de l'endroit, du café, à Montréal, place Jacques Cartier. J'écris, j'ai 16 ans, je suis né avec le siècle. C'est la première phrase dans L'absence des hommes que je publierai un an plus tard. Mais vraiment, c'est là aussi, c'est une révélation. C'est ça tombe dessus comme la foudre. C'est-à-dire, au moment où j'écris la première phrase, je sais que je parais cinglé quand je raconte ça, mais je vais raconter autrement parce que c'est comme ça.
À aucun moment vous sentez un imposteur, un sentiment que certaines personnes ont, et moi le premier, en se disant pourquoi moi, pourquoi là
Non, en fait.
De quel droit
Non, justement, je sens l'exact contraire. C'est-à-dire, je me dis, enfin, je suis à ma place pour la première fois. C'est-à-dire, tout ce que j'ai fait jusque-là, je ne le renie pas. La vie que j'ai vécue jusque-là.
Ouais, 16 ans.
Les métiers que j'ai. Parce que là, à 99, j'ai déjà 32 ans quand j'écris le premier élément. Donc, tout ce que j'ai vécu jusqu'à 32 ans, j'ai pas de souci avec ça. La vie que j'ai menée me va, ça. Mais j'ai fait quelque chose. Et là, tout d'un coup, quand j'écris le livre, j'ai l'impression d'être. J'ai l'impression que c'est identitaire. C'est au plus près de ce que je suis. J'ai l'impression que je me rencontre. Mmh. Et donc, l'écriture, quand ça me tombe dessus, je me dis, je veux plus rien faire d'autre dans ma vie que ça. Écrire des livres maintenant. Donc, non seulement je me sens pas un imposteur, mais je me sens complètement à ma place. Après, la suite aurait pu me donner tort et on aurait pu me dire, écoutez, vous écrivez très mal, vos livres n'intéressent personne. Et ça aurait pu arriver, évidemment. Mais fondamentalement, moi, je me pose pas cette question. Je suis dans une sorte de révélation presque mystique. Ouais.
Et qu'est-ce qui a séduit, d'après vous? Parce que vous avez envoyé votre manuscrit parce que vous ne connaissiez personne dans le monde de l'édition. Donc, je crois, 7-8 maisons.
Ouais.
L'un d'entre eux vous a répondu particulièrement intéressé. D'après vous, qu'est-ce qui a séduit? C'était une histoire, je rappelle, c'était pendant la Première Guerre mondiale où vous mettiez en scène Marcel Proust.
Oui, absolument.
Et c'est un récit sur le désir et l'amour.
Je pense qu'en fait, peut-être le fait que ça ne soit pas un texte autobiographique, mais que je sois allé puiser dans l'histoire, parce que c'était effectivement Proust en personnage central et la Première Guerre mondiale en décor.
Ouais.
Tout ça fait que l'éditeur a dû se dire, celui-là, il est quand même étrange d'écrire à 30 ans des livres qui se passent en 1916 avec des personnages ayant réellement existé et qu'il n'ait pas l'idée de se raconter lui. Donc j'imagine que c'est ça qui a dû séduire. Oui.
Vous avez dit l'auditeur et pas le lecteur, ça tombe bien parce qu'on va arriver en 2012. Del Rey qui a refusé d'articuler, mais c'est sublime.
Oh
mais j'adore.
C'est génial.
C'est tellement beau.
C'est bon ce commentaire.
C'est tellement beau.
Mais c'est vrai que ça fait un peu AVC quand même. Hein.
Oh
Ah, si, elle prononce rien.
Et on vous retrouve, Philippe,
à la radio, justement. C'est pour ça
en 2012 à la radio, dans On refait le monde sur RTL.
Oui.
Vous participez régulièrement à cette émission de débat et d'actualité.
Oui, avec Marco. Oui, absolument.
Ouais, qu'est-ce qui a déclenché cette envie de participer
en fait,
auteur et qu'on pourrait se dire, j'ai une figure publique, il ne faut pas que je me fâche avec mes lecteurs potentiellement en prenant position.
Non, j'ai hésité à le faire, mais pas pour cette raison-là. Ça rentrait pas en ligne de compte. Mais l'hésitation que j'avais, c'était de me dire d'où je parle. C'est plutôt ça, c'est dire, je vais à la radio pour donner mon avis, on va me dire, mais enfin, on s'en fiche un peu de son avis. Mon avis n'a pas plus d'importance que la vie de n'importe qui d'autre. Enfin, il est équivalent à la vie de tous les autres.
Non, voilà. C'est un avis. Ouais, c'est ça.
Mais, non, parce que je voulais pas donc me présenter comme un expert de quoi que ce soit. Je ne suis expert en rien. Bon, donc j'ai beaucoup hésité. Puis finalement, j'y suis allé en me disant, après tout, j'ai un regard sur l'actualité. Je vis dans le monde réel. Donc, parce que je lutte contre cette espèce de figure éthérée de l'artiste qui vivrait en dehors de toute contingence, qui ne saurait même pas que quoi que ce soit existe autour de lui.
Qui connaît pas le prix de la baguette ni du ticket de métro.
Ça m'agace parce que c'est faux. Et donc j'avais envie de dire, vous savez, nous aussi on vit dans le monde réel et on peut avoir un regard sur ce monde réel. C'est pour ça que je suis allé le faire.
On va évoquer avec Jean-Christophe Minot l'autre partie donc de votre livre. Merci Jean-Christophe de venir à ce micro. Je le disais tout à l'heure, vous êtes médecin, chercheur et philosophe, auteur de nombreux ouvrages. Vous avez signé « Vivre après un cancer, favoriser le soin de soi » en 2016 et en 2018 « Soin du corps, soin de soi » aux éditions PUF, presse universitaire. De France ou française,
ouais, De France.
Il est évident que lorsqu'on frôle la mort, ça change la vie, mais ça la change en bien ou en mal?
Alors en fait, je dirais que il y a autant finalement de manières de vivre une maladie grave et un événement aussi déstabilisant qu'il y a de malade en fait. Donc on peut pas dire ça la change en bien ou ça la change en mal. Pour certaines personnes, ça a pu la changer en bien. Pour d'autres personnes, ça a été un traumatisme. Donc, c'est difficile de faire des généralités.
Mais il n'y a pas une redécouverte, il n'y a pas ce moment magique. Je me souviens de Philippe Labro qui me disait que pour lui, chaque brin d'herbe reprenait une importance et une dimension magique et formidable.
Alors néanmoins, il y a des points communs.
Sa maladie, voilà.
Il y a la manière dont on l'a vécu, il y a la manière dont on s'en souvient. Et il y a le fait finalement que, d'une certaine manière, rien ne sera comme avant. Et ça, c'est ce que disent les gens qui ont traversé une épreuve comme une maladie grave. C'est-à-dire, on ne peut plus être comme avant. Et notamment, il y a cette dimension-là qui est très importante, qui n'est pas tant le fait de vouloir jouir de la vie que le fait de pouvoir, en fait, profiter tout simplement du présent. Et de savoir quelle est l'importance, ouais, tout simplement, ouais, de vivre au présent.
De chaque seconde.
Voilà.
Pendant une maladie, on a également le regard de ses proches, de la famille, de ses amis. On peut avoir le sentiment d'être soutenu ou au contraire abandonné. Quand on dit profiter de chaque seconde, c'est soit avec soi et soit avec la vie et la nature et la planète, mais avec son entourage. Est-ce que là aussi, ça peut changer des choses?
Alors, avec son entourage, effectivement, c'est un moment qui est absolument primordial et d'une certaine manière, ça rend visible des liens qui étaient quotidiens. Donc, quand je parlais effectivement de l'importance du présent, c'est la même chose, on vit tous au présent, mais on n'en a peut-être pas cette conscience, justement, là. Et même chose, en fait, dans les relations qu'on peut avoir avec ses proches, la quasi-totalité du temps, d'ailleurs, justement, ça renforce les liens avec les proches. Pour d'autres personnes, ça peut être aussi une épreuve. Et parfois, ça peut détruire certains.
Il y a des gens qui sont très maladroits vis-à-vis de la maladie. Voilà. C'est aussi le cas dans le roman de Philippe Besson. C'est-à-dire des gens qui n'aiment pas traîner dans les hôpitaux, qui n'aiment pas cette ambiance-là, qui sont maladroits, qui n'osent pas dire comment ça va.
Ça les confronte à leur rapport à la mort à eux aussi. C'est-à-dire que, voilà.
Ça, c'est évident, effectivement, que ça dépend des personnes et de la façon dont chacun, finalement, à nouveau, dans les proches, réagit à la maladie, ce qui est très personnel. Néanmoins, ce qui est spécifique, c'est que quand même être malade et gravement malade, c'est être à part, en fait. Et c'est vivre quelque chose qui est totalement à part. Et de ce fait-là, effectivement, les relations avec les proches changent aussi.
À part, ça nous renvoie simplement à la fragilité de la vie?
Oui, mais à nouveau, c'est des choses dont on n'a pas conscience.
Cette fragilité-là, oui, mais on peut l'avoir aussi si on perd un ami ou un proche,
oui,
un membre
tout
de
à
sa
fait.
Famille. On ne sait pas forcément soi, soi, on n'est pas le nombril du monde.
Non, tout à fait, bien évidemment. C'est pas forcément soi. Mais le fait quand même, je dirais, d'être marqué dans sa chair par cette fragilité-là, et pas seulement se savoir théoriquement mortel, mais vivre le fait que l'on va peut-être mourir, et en l'occurrence là dans le livre, il le dit à un moment, je vais mourir.
Ouais, il l'annonce même à ses proches.
Exactement. Ouais. Ouais. C'est pas du tout la même chose. C'est pas intellectuel en fait. C'est quelque chose que l'on a au plus profond de soi. Et c'est ça qui fait la différence.
Quand vous parlez de maladie, et qu'il y a une guérison dans les bons cas de figure, est-ce qu'on parvient aussi à quitter cet état d'individu qui est sur la sellette?
De survivant,
tu veux dire ? Dedans, de guérir aussi, de ce rapport à la guérison. C'est tout d'un coup se considérer non plus comme un ancien malade, mais comme quelqu'un qui va bien et qui... Et donc, c'est derrière soi. Je pense à des cas de cancer où on a toujours la crainte
que ça revienne.
Et qu'une fois qu'on est guéri, on reste un peu dans ce statut de potentiel malade.
Ce qui est sûr, c'est que, on va dire, il y a une période très particulière, une période un peu floue, justement, après les traitements, après la maladie grave. Et dans cette période-là, justement, on se sent sans doute plus fragile. Et puis après, le temps fait que très souvent, justement, heureusement, on se réapproprie ce qui s'est passé, les choses s'estompent. Néanmoins, comme vous le soulignez, dans le cas du cancer, il peut toujours y avoir cette idée que ça peut revenir, surtout quand on est en surveillance et qu'on a des examens, donc les choses peuvent revenir. Néanmoins, je dirais qu'avec le temps, en fait, justement, ça s'apaise et on retrouve le monde normal, entre guillemets.
Est-ce qu'il y a un problème culturel aussi dans notre société occidentale ? Notre rapport à la mort n'est pas exactement le même que dans d'autres régions du globe ou avec d'autres croyances, et ça nous apprend aussi à relativiser ce rapport-là et à le maîtriser un peu.
À le maîtriser ou à le démaîtriser, justement.
Peut-être, oui.
Puisqu'en fait, on est dans une société qui est autour de la maîtrise, notamment autour de la maladie et de la mort.
On croit tout maîtriser, or la seule chose que l'on ne maîtrise pas, c'est la mort.
Oui.
Et on l'appréhende plus que dans certains, dans certaines religions, croyances, où on en fait une fête, on en fait comme un passage de plus vers autre chose.
Oui, mais justement, en fait, enfin, moi, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut rencontrer quand on est gravement malade, c'est cette déprise. Et c'est ce qui est dit, d'ailleurs, aussi dans le livre. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le livre, ça raconte une histoire d'amour et une histoire de maladie. Et en fait, le point commun entre les deux, quand même, c'est la déprise.
Philippe ? Là, il faut que vous interveniez.
Oui, mais c'est à un moment le lâcher prise. C'est-à-dire, tout d'un coup, ça ne dépend plus de vous. C'est-à-dire que vous êtes amoureux et ça ne dépend pas de vous. Vous êtes dans cette dépendance et vous êtes malade et vous dépendez des sachants, des savants et vous dépendez de votre corps qui dysfonctionne et à propos duquel vous pouvez rien faire.
Mais c'est vrai aussi que cette maladie intervient comme une sorte de révélateur à ce moment-là dans votre vie. À tous les niveaux.
À tous les niveaux, oui. On se pose la question d'ailleurs du corps somatique en se disant est-ce que le corps réagit effectivement à autre chose? Bon, est-ce que je tombe malade juste après être tombé amoureux, donc c'est quand même toujours une succession de chutes. Et c'est vrai que ce que vous disiez est très juste. C'est-à-dire, à la fois, on se découvre mortel, ce qui est une chose terrible, surtout à 20 ans, on n'a pas du tout envie de se découvrir mortel. On pense qu'on a la vie devant soi et qu'il ne nous arrivera rien. Et tout d'un coup, on vous dit, mon vieux, ça peut s'arrêter demain matin, vous allez peut-être mourir, et en tout cas, vous avez une épée de Damoclès au-dessus de votre tête, et il faudra que vous vous fassiez avec, ce qui est un peu compliqué, voilà. Vous voyez aussi dans le regard de vos proches, c'est-à-dire que moi, je me souviens de ma mère face à moi, et qui se dit, mon fils va mourir, donc c'est juste insoutenable pour elle. Et vous pouvez rien faire, à part juste mimer l'insouciance et faire croire que tout va aller bien et que ça va se régler, tout ça, et qu'il faut pas s'inquiéter, mais que, pour autant, vous n'avez aucune possibilité de le faire. Et puis à un moment, oui, cette espèce de lâcher prise où vous dites, bon ben c'est fini. C'est fini, je vais pas y arriver, je vais pas m'en sortir, le tunnel est trop long, visiblement tout échoue, visiblement tous les traitements qu'on tente ne mènent à rien, visiblement je suis un malade rétif à tous ces traitements-là, donc on arrête. Et bizarrement, ce moment-là, je me souviens, moi, chez moi, je le vis comme, je lâche prise, c'est fini, ça va s'arrêter.
Alors, justement, Jean-Christophe Minot, est-ce que ce lâcher prise-là n'est pas un danger où on laisse la maladie l'emporter sur sa force de caractère, et je repense au concert, et on l'a déjà tous entendu. Le combat est extrêmement important, et ceux qui disent « je vais y arriver, je vais me battre contre le cancer », gagnent plus souvent que ceux qui abandonnent en se disant...
Oui, ça je suis d'accord, mais en même temps, il faut accepter d'être malade. Et c'est ce que vient de dire, en fait, Monsieur Besson.
Non, mais accepter d'être malade, c'est une chose. Se dire, je vais me battre et je vais gagner est un plus par rapport à ceux
qui...
Ah oui, tout à fait.
Oui, parce que là, ils jettent l'éponge.
Oui. Et se battre, c'est une manière d'accepter.
Oui. Mais en même temps, c'est après un long coma que ça se passe.
Oui. C'est vrai. Jean-Christophe Minot, le soin du corps, soin de soi, ça passe, j'imagine, par la nourriture, par l'hygiène de vie, par le sport ou la marche.
Ça passe beaucoup, effectivement, on va dire, par toutes les activités qui sont possibles et qui font du bien au corps, en fait, dont effectivement la marche, l'activité physique, mais aussi le fait de pouvoir bien manger. Ouais. Et ça, c'est extrêmement important, je dirais, aussi dans l'après. et dans l'après-traitement.
Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Christophe, d'être venu à notre micro. Jean-Christophe Minot. Tanguy Pastureau, bonjour Tanguy.
Bonjour.
Dans un restaurant à Milan, il y a un nouveau concept qui se développe.
Oui, ils vous offrent des sushis quand vous postez sur Instagram une photo de vos sushis. Si vous les avez bouffés avant d'avoir eu connaissance du deal, vous pouvez faire une radio de votre colon et la mettre sur le net. Le but, c'est que chacun devienne un influenceur comme les nanas de la mode, mais avec des sushis à la place des culottes.
Vous êtes bien sur Inter et il est midi. Bonjour, si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. La bande originale, ça continue et c'est même reparti avec toute l'équipe au grand complet. Notre invité du jour pour son livre, un certain Paul Darigrand, Monsieur Philippe Besson. Philippe Besson qui signe un certain Paul Darigrand aux éditions Julliard. C'est une histoire vraie, même s'il ne s'appelle pas Paul Darigrand. Il y a donc cette première partie où vous êtes étudiant à la fac, lui aussi, pas exactement dans les mêmes cours, même cycle, mais en tout cas vous vous croisez, vous vous aimez, vous êtes l'amant qui vient perturber un couple où tout est là pour qu'il réussisse, ils sont parfaits, vous admirez la compagne de Paul, et réciproquement d'ailleurs, elle a beaucoup de tendresse et d'affection pour vous. Mais de là va se construire une liaison, un mensonge qui sera révélé par la maladie. C'est qu'à ce moment-là où elle, infirmière en plus, et ça c'est pas naïf, ça c'est pas une invention de la fiction.
Non, elle était vraiment infirmière. Oui.
Va être à la fois à l'écoute du malade et à la fois la juge de la situation et va vous condamner, en tout cas de ne pas apprécier que les choses se soient faites dans le mensonge.
Oui, c'est qu'à un moment elle déboule d'ailleurs à l'hôpital où je suis là, j'attends le verdict, et elle vient d'apprendre que je suis malade parce que Paul a fini par le lui dire, et à la fois elle déboule d'abord comme une infirmière, c'est-à-dire avec un langage finalement assez objectif, assez technique, pour dire alors ça se passe comment, etc. Ouais. Et ça me, à la fois je suis décontenancé par sa présence et rassuré par le fait qu'elle me tient un discours finalement objectivé, et puis tout d'un coup elle ça vrille, on passe dans le personnel et je comprends que elle sans doute elle devine et que la fin de l'histoire d'amour est peut-être proche parce que elle va finir par l'emporter, parce que c'est quelqu'un qui a cette force d'avoir plu à Paul, de l'avoir séduit, de l'avoir conquis
de ne pas être sur la concurrence avec elle non plus.
Absolument, on n'est pas du tout sur le même registre. Évidemment, on n'apporte pas la même chose, elle et moi. Mais je pense qu'elle a la conviction, et la suite lui a donné raison, que il l'avait choisie elle et qu'elle serait la compagne de sa vie entière. Que le jour où il l'a choisie, elle serait ça, et que peut-être lui jouerait dans l'ombre autre chose, il aurait des liaisons clandestines, il aurait des inclinations qu'il ne révélerait pas, mais qu'elle serait, elle, la compagne pour la vie. Voilà, et je comprends que je perds le match à ce moment-là, oui.
Un certain Paul Darigrand chez Julien, l'excellent nouveau roman de Philippe Besson, on en reparle, mais d'abord voici... Tanguy Pastureau, et vous en êtes la preuve vivante, les réseaux sociaux font de plus en plus partie de nos vies.
Oui, il y en a plusieurs. Twitter, bien sûr, qui sert à envoyer à des stars qui postent comme message « Bonjour à tous mes loulous » des réponses comme « Va crever pourri ta mère la peine d'Amel Bent ». C'est le réseau social du syndrome de la Tourette. Il y a Facebook qui sert à réaliser effaré que même Mamie Hortense a un compte Facebook sur lequel elle poste des photos de Frédéric François et des arbustes de son jardin. Pour les distinguer, Frédéric François, c'est celui qui râle quand un chien lui pisse dessus. Parfois, vous écrivez en commentaire « Va crever mes mais avant de vous rendre compte que vous n'êtes pas sur Twitter, ce qui peut avoir des conséquences terribles puisque si bien la vieille vous déshérite. Il y a plein d'autres réseaux sociaux prisés par les jeunes, ce qui fait que je ne les connais pas, hein, et vous non plus, puisque nous sommes tous vieux et décrépits. Ici, c'est à qui n'a plus ses cheveux, qui n'a plus ses règles, qui n'a plus de prostate. Il nous manque tous un truc. La vieillesse, c'est la lèpre de l'homme occidental. Et il y a aussi Instagram qui consiste à poster des photos de soi, donc moches, mais passées à travers des filtres qui améliorent le physique de chacun. Ainsi, parfois, il arrive qu'on se masturbe devant le cliché d'une femme fatale avant de se rendre compte consterné qu'il s'agit d'Emma, notre petite nièce de 12 ans, qui a utilisé le filtre No Acné, le filtre Gros Sein et le filtre Lève Immense. À part Lana Del Rey qui se fait appliquer des filtres directement par le Dr Johnson à LA, on est obligé d'avoir recours à tout ça si on veut ressembler à une chaudasse. Et donc, on coupe Instagram, dégoûté d'avoir joui en pensant à celle à qui 2 ans plus tôt on avait offert la maison de Barbie. C'est un super
super jouet parce qu'après on peut mettre dedans la poupée Kirikou et ça fait comme si Barbie avait accueilli chez elle un petit migrant. Bref, sur Instagram, tout est faux. Sans les filtres, les paysages sont nuls et les gens l'aient. Par exemple, Nagui, chaque jour, vous postez sur votre compte une photo de vous et vous invitez sans filtre ni maquillage. Oui. Et ben, sur les deux dernières années, je n'ai encore reconnu personne. Même pas vous. À chaque fois, je me dis, ce monsieur me rappelle bien un type plus jeune qui pose des questions à la télé le midi, mais qui, hein, en vrai, on ne ressemble jamais aux photos. Il y a pas longtemps, on a eu Roman Boringer. Hein. Et ben, je lui ai dit, ah la vache, monsieur Boringer, je vous adore, je peux vous appeler Richard. Et ben, elle a bien fait la gueule. Et donc, quand on a un compte Instagram, des gens s'y abonnent et se disent « Waouh, ouais, il est trop beau !» Alors que vous avez juste appliqué le filtre corps de Lisa Razou. Et « Waouh, la plage derrière, c'est Saint-Barth, je vais peut-être voir en arrière-plan Laetitia faire un doigt d'honneur à David Hallyday, alors qu'en fait, la personne est en banlieue de Limoges. »
Mais pourquoi vous fixez sur Instagram ?
Eh bien, parce qu'en Italie, il y a un resto de sushi, ces établissements qui permettent de bouffer du thon cru pêché dans une nappe de fioul au milieu de bouteilles plastiques. Après, vous avez plus de mercure en vous que le lapin Duracell à qui on viendrait de changer les pile. Resto qui offre le repas gratuit à toute personne ayant plus de 100 000 fans sur Instagram. En échange, il faut juste poster une photo de son repas, avant digestion bien sûr, indiquer où on a ingéré les sushis et paf, on devient influenceur. Comme les petites pétasses qui testent des leggings dans leur chambre et se font en un mois plus de brosouf que Gérard Collomb s'y signe un contrat de mannequin sous pull pour le catalogue d'Amar. Ensuite, c'est dégressif. De 50 000 à 100 000 abonnés, vous avez droit à 8 plats gratuits et de 5 000 à 1 000 abonnés, on vous offre 2 sushis. Hein, moi, j'ai 600 fans Instagram, j'ai vérifié, j'ai droit à une sauce sucrée. Vous, Nagui, en êtes à 209K de fans, parce qu'Instagram, c'est élégant, calcule les gens en kilogens. Hein, l'idée du truc, c'est que nous sommes juste des données. Si on faisait pareil dans la vraie vie, Anne Hidalgo dirait, moi, à Paris, j'ai 2000K d'habitants, dont 20K d'écolos barbus qui kiffent le vélo, pour qui je vais privatiser l'ensemble de la ville. Rien à foutre, je suis une ouf. Bref, à part François Bayrou, qui ne compte pas ses fans en kilos mais en grammes, nos vies sur Instagram ne sont que des kilos de bidoche. Nagui, avec 209K ici en France, vous n'avez rien, mais en Italie, vous pouvez bouffer gratos. Donc, à mon avis, vous allez nous faire une Manuel Valls. Et d'ici 2 mois, vous êtes sur la rail à faire glapir du Toto Coutinho à des types à cheveux gominés. Alors, le propriétaire du resto assume, il dit « Chacun est un influenceur dans son groupe d'amis. » En gros, vous voyez un plat de sushi sur une photo prise par un pote, vous vous dites « Mon Dieu, mais moi aussi j'en veux, je tuerai père et mère. » ou père et père si vous êtes issu d'une GPA, pour en bouffer. Hein. Mais avant, ça faisait pas ça les photos. Quand on voyait le baiser de l'hôtel de ville de Robert Doisneau, on se disait pas « ça a l'air super, il faut que j'emballe ». Dans les années 60, on a vu des tas de photos du Vietnam, et ben la destination a pris il y a seulement 10 ans, parce qu'une nouvelle frontière a privilégié une approche moins violente du pays. Mais maintenant, on est tellement con que si Nabila poste une photo d'elle avec une fringue, on achète la même, alors qu'on n'a pas son physique. Moi, je me suis payé son petit haut avec écrit « Lick my pussy », un truc sur les animaux, je crois. Et ben, il me va pas du tout, parce que j'ai pas de poitrine, alors que sur Gérard Larcher, il tombe nickel. Plus besoin de faire du pub, les gens la font eux-mêmes contre 4 sushis. C'est le tapin 2.0. Pour 10 maquis plus une photo, on est là à dire à ces 104 fans de faire la même chose. Sauf vous, Nagui, qui êtes à 209K, mais ne vendez rien. Vous passez totalement à côté de l'époque. Vous payez vos sushis. Mais quel ringard!
Merci, Tony.
Bravo, bravo.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Voici Lee Fields and the Expressions, son groupe. Le titre, c'est Will I Get Off Easy, et c'est dans la bande originale sur Inter. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Besson. We'll be right back. Besson, vous avez essuyé déjà des regards et des insultes homophobes.
Oui, bien sûr. Au milieu des années 80, dans une petite ville de province, quand vous vous révélez homosexuel, c'est rare que les gens vous envoient des fleurs. Hein. En général, ils vous adressent plutôt des mots injurieux, des insultes, ils vous bousculent. Donc il y a un peu de violence physique et verbale.
Comment on peut l'expliquer ? Moi, je repense ce qu'a dit tout à l'heure Tanguy Pastureau, et je repense aussi à la phrase qu'avait dite à ce micro Lilian Thuram sur les racistes ou les insultes, en disant que c'est celui qui insulte qui a un problème.
Mais oui, bien sûr. C'est ce que dit Tanguy, c'est-à-dire que le problème c'est pas nous, c'est les autres. Le problème c'est pas Bilal Hassani, c'est les autres, ceux qui l'insultent.
C'est ça.
Mais on pouvait dire il y a 35 ans, il y a une forme d'ignorance, c'est-à-dire que il y avait une forme d'invisibilité des homosexuels. En tout cas, ils n'étaient pas très visibles. Donc effectivement, quand vous voyiez arriver un homosexuel, vous étiez décontenancé. J'essaie de trouver des explications, c'est un peu compliqué, mais j'essaye. Et donc vous étiez dérouté et on a comme ça une espèce de difficulté à l'égard de tout ce qu'on ne connaît pas bien. Aujourd'hui, 35 ans plus tard, on a tous compris ce que c'était que l'homosexualité. On sait tout aussi ce que c'est que l'homophobie. Et donc je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui comment on peut s'acharner sur ce jeune homme ou sur n'importe quel garçon ou fille qui a 16 ans, 17 ans, comprend que son inclination le porte vers son sexe. Et là, c'est très gênant, parce qu'il faut qu'on ait en tête que c'est la raison majeure de suicide chez les adolescents.
Oui, absolument. D'où l'importance du refuge aussi qu'il faut soutenir. Absolument. Mais qu'est-ce que ça peut faire?
Ah, mais moi, c'est pas à moi qu'il faut poser la question.
Non, mais j'aimerais comprendre.
Moi, je suis dérouté, je suis décontenancé, on a envie de dire, ça vous enlève quoi?
Ça vous pose
quel problème?
C'est comme pour le mariage, ça n'enlevait rien à personne.
Absolument à personne. Moi, c'est ça qui me frappait, c'est que sur le mariage, quand même, pour tous, vous avez des gens qui sont descendus dans la rue pour dire « nous, on a un droit et vous ne l'aurez pas ». Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la République. En général, les gens descendent dans la rue pour défendre quelque chose qu'on a prévu de leur retirer. Ouais, voilà.
Mais c'est comme
là, on ne leur retirait rien du tout à personne. L'idée, c'est qu'on on donnait quelque chose en plus. Et vous vous dites, mais dans quel monde on vit et dans quelle époque on vit pour que ce soit encore jouable, cette haine?
Est-ce que Paul Darry-Grand, dans votre roman, lui n'assume pas son homosexualité?
Absolument. En tout cas, il ne l'assume pas publiquement. C'est-à-dire, il l'assume dans l'intimité, bien sûr, mais pas publiquement. Et je pense que ça entre en ligne de compte dans ses choix.
Enfin, il n'assume pas dans l'intimité de son couple non plus.
Sa
femme dit, je me doutais qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais pas.
Il n'est pas que homosexuel d'ailleurs.
Absolument. Mais après, je pense que ça fait partie de ça. C'est-à-dire que je pense qu'au fond, c'est quelle vie je choisis. Est-ce que je choisis finalement une vie tranquille, une vie où il ne m'arrivera rien, une vie où finalement je ne serai pas l'objet des insultes, de l'opprobre, etc. Ou est-ce que j'assume et je prends le risque d'être violenté, d'être moqué, d'être ostracisé? C'est vrai qu'on court un risque quand on se montre différent, quand on n'est pas dans la norme, quand on n'est pas dans la majorité. C'est plus simple d'être dans la majorité.
Oui,
parce que le monde est fait pour la majorité.
Le héros ou le co-héros de votre roman, on ne sait pas trop d'ailleurs s'il se cache par rapport au regard de la société ou par rapport à l'image qu'il a de son couple et de sa vie privée. Est-ce qu'il protège sa vie privée ou est-ce qu'il se protège du regard des autres parce qu'il n'est pas homosexuel?
Je pense qu'il avait une vraie ambivalence, une vraie ambiguïté. C'est-à-dire qu'à la fois, il n'avait pas envie de courir ce risque-là et de faire courir un risque à son couple officiel et en même temps il savait vers quoi le portait son désir, donc il assumait aussi une part de ça. Donc lui était moi je le vois comme un funambule, Paul Darry-Grand. C'est quelqu'un qui marche sur un fil et de temps en temps le fil bouge un peu fort, mais il continue à avancer sur son fil. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça, beaucoup de gens qui sont des funambules de l'existence.
Ouais, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont intimement convaincues que tout le monde, homme comme femme, tout le monde est bisexuel mais n'assume pas cette bisexualité et où c'est l'éducation ou les croyances ou la manière dont les choses
ont été forcées. Je ne crois pas à ça. Je pense qu'effectivement, à un moment, on découvre sa sexualité. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler cette évidence, c'est d'enfoncer cette porte ouverte, qui est qu'on ne décide pas de sa sexualité, justement. C'est-à-dire que personne ne s'est réveillé un matin dans cette pièce en se disant « Tiens, ben, je vais décider d'être homo ou hétéro. » Non, on ne décide rien. Ça s'impose à nous.
Bon, ce qui a choqué quand un youtubeur a décidé de...
Oui, c'est ça. Je vais être homosexuel pendant une semaine.
Voilà, pour voir
bien sûr, chérie, fait autre chose. Bon. Et donc, les gens sont cinglés. Bon.
Et puis on ne décide pas de qui on tombe amoureux.
Voilà, absolument.
En fait,
on décide
pas grand-chose. Au-delà du choix, de l'attirance, on peut très bien se dire, vous pouvez vous dire, vous, Philippe, moi je suis homosexuel, mais demain vous allez rencontrer une femme.
Absolument.
Et tout d'un coup, ça va bouleverser votre vie.
Ça, je crois fondamentalement
hétéro.
À ça.
En fait, vous ne devenez pas hétéro, vous êtes amoureux.
Je crois qu'on a une sexualité définie, délimitée, etc. On peut décider de la censurer, de la comprimer, de la réprimer, tout ce qu'on veut, mais en tout cas, on a une sexualité. En revanche, on peut avoir des inclinations différentes. On peut effectivement aller vers des gens, on peut tomber amoureux de gens qui... insoupçonné d'une manière générale. D'ailleurs, on tombe souvent amoureux de gens qu'on n'avait pas imaginé aimer un jour. Donc ça, je crois à ça. Et je crois aussi que notre vie est faite de rencontres, pas seulement amoureuses. C'est-à-dire que je pense que le cours de notre existence, le cours de notre existence et notre destin au final, il est décidé par ceux qu'on croise sur le chemin.
C'est-à-dire que vivre en société.
Non, mais n'oublions jamais ça. C'est-à-dire que on peut tous ici dans cette salle et ceux qui nous écoutent se dire quels sont les gens que j'ai rencontrés à un moment dans ma vie qui ont changé la trajectoire. Il y en a forcément. Sûr, et donc je crois à ça fondamentalement. Je crois aux rencontres.
Beaucoup de pudeur dans votre manière de décrire d'ailleurs la sexualité. Vous passez plus de temps et ça va faire plaisir à beaucoup de personnes. Vous passez plus de temps sur les préliminaires que sur l'acte en lui-même et vous dites d'ailleurs clairement, vous écrivez clairement.
Je vais pas vous faire un dessin.
Je vous laisse imaginer. Je vous fais pas un dessin. Je vous laisse imaginer la suite pour que après chacun s'identifie comme il le veut, comme il le souhaite. Bien sûr,
on sait. C'est la pudeur. Et puis de toute façon, d'une manière générale, moi j'essaie d'être plutôt quelqu'un de la pudeur, de la délicatesse, de la retenue, de la... Voilà, je crois pas à la démonstration, je crois pas... Bon, donc tout le monde a à peu près compris et donc ça sert à rien. Et puis effectivement, je crois au pouvoir des vocations. C'est-à-dire, je pense qu'il faut envoyer un début d'image et les gens continuent l'histoire. C'est ça un livre, indépendamment de ce sujet-là. Un livre, c'est que vous commencez à dire quelque chose et les gens entendent une histoire qui est la leur. C'est quand vous racontez une histoire intime, les gens entendent leur histoire à eux. Ils entendent l'écho de leur propre intimité.
Pudeur, élégance, délicatesse, autant de mots qui ne vont pas. À Daniel Morin.
Oh, ce que c'est bon, nom de Dieu. Oui, c'est infiniment bon de recevoir un homme de la trempe de Philippe Besson, un homme de lettres, un érudit qui n'a pas peur de se livrer, de se mettre à nu en fouillant pour nous et avec nous le grenier des amours passés. Quand je pense aux miennes, à mes amours passés,
oula,
j'ai la larme à l'œil. J'ai toujours une larme quand j'y pense, une larme de nostalgie quand je pense à certaines, une larme de soulagement quand je pense à d'autres, une larme de dégoût quand je pense à la majorité. Mes amours commencèrent très tôt. Dès la maternelle, le long chemin de harcèlement qui jalonne ma vie trouva ses marques. Sophie, une petite souillon âgée de 5 ans, avait jeté son dévolu sur moi. Faut dire qu'à l'époque, j'étais irrésistible. J'avais 4 ans et 3 mois, mais j'en paraissais facilement 4 et 10. J'étais dans ma phase romantique énigmatique. À la récréation, j'arpentais la cour de récréation, le regard perdu en fumant des clopes. Sophie me plaisait, c'est sûr, du haut de ses 5 ans. Elle avait ce magnétisme irrésistible qui mettait au défi aussi bien ma sensibilité que ma virilité d'homme de 4 ans et 3 mois. Finalement, il ne se passa rien entre Sophie et moi. J'étais pas prêt pour une relation avec une femme plus âgée. Plus tard, mon parcours fut plus mouvementé. Il faut dire que plus j'avançais en âge, plus mon sex-appeal devenait insupportable. Insupportable pour moi, obligé de m'arrêter devant chaque miroir pour me féliciter d'être moi. Insupportable pour les autres qui, chaque fois qu'ils me croisaient, souffraient de ne pas pouvoir, en toute liberté, m'étreindre et partager dans mes bras un moment de pure sexualité bestiale et divine à la fois. Mon corps était une promesse de volupté. Mon torse au contour mythologique donnait le frisson. Le calme de mes cuisses laissait deviner la perspective d'un marathon sensuel des plus éreintants. Quant à ma démarche, saccadée par un fouetté de bassin arrogant mais maîtrisé, elle annonçait avec certitude une qualité de saillie digne des plus grands haras. J'avais 9 ans. 9 ans et toute la fougue d'une jeunesse. Jeunesse qui, alliée à une générosité sans borne, donna du bonheur et du plaisir à des milliers d'individus humains, et parfois non. Mais là où j'ai atteint mon pic de séduction et de fracas érotique, c'était l'année de mes 21 ans. Physiquement, j'étais digne de l'Olympe. Un corps bardé de muscles saillants et vibrants, un regard qui aurait mis le feu à la plus ineffugée des vertus. Le tout au service d'un appareillage génital digne des plus belles mécaniques industrielles des années 40. À base de pistons, de roulements à billes et de culasses, le tout huilé à souhait pour assurer en toute quiétude une besogne érotique de longue haleine, sans craindre, malgré la surchauffe étouffante, l'embrasement des tissus. À l'époque, on m'appelait le consul de l'amour. Et c'est à cette époque, et vous allez voir, c'est incroyable, Philippe Besson, c'est à cette époque que j'ai presque vécu une aventure comme celle que vous avez décrite, page 99, 100 et 101 de votre livre. Je vous cite, on montait au premier étage de l'hôtel particulier, on rejoint ma chambre, l'amour se fait dès la porte fermée, pas de préliminaire, pas de conversation badine, des mains qui s'emparent des visages, des bouches qui mordent, des vêtements qu'on retire, des doigts qui caressent, des queues qui se dressent, et puis la suite. Et vous qui, après l'amour, demandez à votre partenaire, tu es venu vers moi pour le cul et votre partenaire de répondre « Non, c'est à cause de ton intelligence. C'est irrésistible, l'intelligence. L'intelligence, moi, ça me fait bander. » Alors moi, c'était plus... On prend l'escalier, on rejoint ma cave. L'amour se fait même la porte ouverte. Et puis, presque comme vous, pas de préliminaires, pas de conversations badines, des mains qui s'emparent des visages, des bouches qui hurlent, des vêtements qu'on déchire, des gifles qui partent, des corps qui se tambourinent, et puis... la suite. Après l'assaut final, je suis allongé sur la terre battue de ma cave insalubre, ma chemise en satin jaune, moitié arrachée, mon pantalon en sky mauve, enroulé autour de mes chevilles meurtries. Je prolonge la magie de l'instant en mettant en fond sonore le best-of d'Herbert Léonard et demande d'un air aussi sensuel que convaincu à ma partenaire de rute, le corps encore tremblant d'amour et l'œil rempli de reconnaissance, « Tu es venu pour moi ou pour le cul ?» Et là, elle me répond « Non, c'est à cause de ta connerie. » C'est irrésistible la connerie moi ça m'excite. Et oui, on a toujours eu des rapports très directs avec Leïla. À demain.
Merci
d'avoir.
La bande originale.
Je m'en souvenais plus.
Il y a des choses qu'on préfère oublier.
Oui, c'est vrai, j'ai occulté.
Un certain Paul d'Arrigranchet, Julliard, une histoire d'amour où vous êtes l'amant qui vient un peu bouleverser les, l'ordre établi du couple entre Paul et sa femme qui se prénomme Isabelle.
Absolument.
C'est ça, de mémoire. Et puis l'histoire aussi de cette maladie mortelle qui vous touche, oui. Avec même une sorte de suspense, je ne sais pas si le mot est approprié, une épée de Damoclès. En tout cas, on ne sait pas quelle est cette maladie. On sait que vous risquez la vie, toute la convalescence et la résilience qu'il peut y avoir après, et ce regard aussi bien des autres que soi-même sur sa propre situation. En tout cas, que l'on ait ou pas vécu de telles histoires d'amour, que l'on ait ou pas vécu de telles maladies graves, ce livre est touchant et utile aussi. Voilà, on y a une sorte de carpe diem qui en ressort. Merci mille fois d'être venu.
Merci infiniment, Nagui. Merci à vous tous.
Des
merci.
Excuses à présenter, Daniel Morin.
Oh, bien évidemment. Désolé déjà pour Niort, Rouen et toutes les villes dont l'architecture a été sacrifiée, que la culture a oublié, que la beauté a snobé, que Philippe Besson a insulté. Bon courage pour les signatures en province, mon fifi. Désolé pour Léo, le chat chiant de Philippe Besson. Alors Léo, j'ai parlé à ton maître à la pause. Après réflexion, il a décidé de te mettre dans un sac plastique et de te jeter dans la Seine. Salut l'artiste. Désolé pour tous les couples qui croiseront à l'avenir Philippe Besson. On s'en doutait un peu, mais on a eu la preuve et la confirmation avec son dernier livre et l'émission de ce matin. Philippe Besson est un salaud qui ne respecte ni l'institution du mariage, ni l'amour des autres.
Au contraire.
Vous êtes un monstre, je suis bien d'accord avec Patrick Besson. Et désolé enfin pour la mâchoire, la langue et les dents de Lana Del Rey qui, on l'a réentendu ce matin, sont toujours paralysées. Oh là 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 là, le carnage, le carnage, le carnage, le carnage.
La bande originale, c'est fini pour aujourd'hui. On vous souhaite une très bonne journée. On sera là demain, même heure, même endroit, même radio, pour parler d'insomnie et de crime, les deux en même temps. Et donne le livre de Tahar Ben Jelloun. Tout de suite, ce sont les carnets de campagne avec Philippe Bertrand. Bonne journée sur France Inter.